Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Conférence sur Radio Certitude, c'est la diffusion de l'enregistrement d'une conférence.
Dimanche et sabbat est le thème abordé maintenant par le pasteur Pierre Truchel.
J'aimerais parler du dimanche et en passant parler du sabbat. Parce que, après tout, pourquoi on se réunit le dimanche, pourquoi pas le samedi? Je ne vais pas faire une étude biblique systématique, mais je vais simplement prendre quelques points afin que vous sachiez pourquoi vous êtes là ce matin dans la communion fraternelle et l'importance qu'il y a à vivre cette journée dans l'Esprit du Seigneur et selon le Saint-Esprit qui a créé littéralement ce jour ou ce rassemblement particulier dans le cœur des premiers chrétiens. Le dimanche, je crois que je l'ai déjà dit, une fois le dimanche se trouve 52 fois dans l'année. Voyez, donc 52 fois dans l'année et dans la Bible, et nous allons voir aussi dans nos vies, dans la pensée de l'Esprit de Dieu, c'est un jour de joie. C'est le jour où les quatre évangiles mettent en évidence. C'est le jour où le tombeau a été découvert vide par les femmes. C'est un lendemain de sabbat, donc, que Jésus est ressuscité. C'est aussi c'est à l'aube de ce jour-là que les femmes sont venues au tombeau et que l'ange leur a dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» C'est aussi dans l'après-midi que les deux disciples d'Emmaüs, toujours le lendemain de sabbat, le jour de la résurrection, que les deux disciples d'Emmaüs, faisant route vers Emmaüs, furent rejoints par le Seigneur ressuscité, qui leur expliqua, comme vous le savez, les Écritures. C'est au soir de ce même jour que Jésus, que le ressuscité, se présenta au milieu des disciples dans la chambre haute en leur disant « La paix soit avec vous ». Et c'est exactement une semaine plus tard encore que, donc, un nouveau premier jour de la semaine, que Jésus s'est présenté dans la chambre haute et qu'il a pu faire tomber les doutes de son fameux disciple Thomas, qui ne s'était pas trouvé là 8 jours auparavant. Vous avez également... dans les livres, dans la Bible, déjà au livre des Actes, vous avez au propos de la résurrection de Jésus, le premier jour de la semaine, ce jeune homme à Troas, qui tomba, vous savez, qui tomba là de deuxième étage et qui mourut et que Paul ressuscita, c'était aussi un premier jour de la semaine. Il y a également au moment où les Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, ou 1 Corinthiens 16 plutôt, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'était donc une offrande qui avait été faite pour Jérusalem, pour les pauvres à Jérusalem. Et c'était donc le premier jour de la semaine, à l'occasion du rassemblement des chrétiens, qu'on a ramassé cette collecte. Donc là encore... Vous retrouvez également le premier jour de la semaine dans le livre de l'Apocalypse où Jean, le jour du Seigneur, où pour la première fois le premier jour de la semaine prend le nom de jour du Seigneur, le jour du Maître, où Jean a cette vision du culte parfait qui aura lieu dans le ciel, où le culte que Dieu voudrait révéler lorsque nous sommes assemblés, voir Jésus dans la gloire, voir la Seigneurie de Jésus dans le ciel. Le livre de l'Apocalypse est la révélation de ce royaume à venir, mais aussi de cette réalité éternelle de la victoire du Christ. Nous savons, nous, par le livre de l'Apocalypse, que la victoire finale nous est acquise. Eh bien, c'est également ce premier jour, le jour du Seigneur, le jour du ressuscité, le jour où le Christ a triomphé de la mort, des puissances de la mort, de l'enfer. C'est le jour du Maître, le jour Dominus, c'est le Maître, le jour de celui qui a maîtrisé toutes choses. Dimanche, comme vous le rappelez le mot, dimanche, dies dominicus, ou dies dominica, le jour du maître, le jour du Seigneur, c'est le jour du dominateur, le jour qui nous rappelle chaque semaine que Jésus est vainqueur, qu'il est ressuscité, qu'il est vainqueur, qu'il est vivant. Les textes historiques aussi, après le Nouveau Testament, je fais ça en introduction. Vous avez par exemple Ignace d'Antioche, le successeur direct des apôtres, qui écrit aux Magnésiens « Tous ceux qui vivaient sous l'ancien ordre de choses ont accédé à l'espérance nouvelle. Ils n'observent donc plus le sabbat, mais le dimanche, jour où l'astre de notre vie s'est levé grâce au Seigneur. » Alors on va maintenant aller un petit peu plus loin, voir dans la pratique. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, au chapitre 31. Exode, chapitre 31, au verset 13. Exode 31, verset 13. Voyons, avant d'aborder le dimanche, clairement, voyons le sabbat. Exode 31, verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Ça, c'est le premier texte. Et puis dans Ézéchiel 20, Ézéchiel, chapitre 20, verset 22, Ézéchiel 20, on fera quand même un petit peu d'étude, verset 22, nous lisons ceci. « Ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. » Exode 20, verset 12, pardon, je me suis trompé, verset 12, verset Ézéchiel 20, verset 12, « Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Une première chose, je n'ai pas le temps d'insister, mais je veux quand même dire que ce soit très clair, on pourra toujours voir après, une première chose qu'il faut nous rappeler, c'est que le sabbat, la notion du sabbat a été donnée à Israël. C'est un signe particulier, c'est une volonté, une ordonnance précise, écrite noir sur blanc et écrite sur les tables de pierre de la part de Dieu pour la nation d'Israël. Il faut aussi que je vous dise à l'entrée que lorsque dans le livre de la Genèse, chapitre 2, il est écrit « Dieu se reposa le 7e jour », n'est pas un ordre ou une loi que Dieu a donnée à toutes les nations. Puisque je me suis reposé, vous allez maintenant observer le jour du sabbat. On ne trouve absolument aucune pratique du sabbat jusqu'à la loi de Moïse. C'est-à-dire que depuis Adam jusqu'à Moïse, il n'y a aucune pratique du sabbat. Il faut bien le comprendre, le sabbat est un signe donné par Dieu à la nation d'Israël qui distingue, afin qu'elle soit distinguée du milieu des nations. Ça, c'est le premier point. Dieu se reposa le 7e jour n'est pas une obligation de le faire, c'est simplement un aspect du récit, un jour de repos que Dieu a fait, mais Jésus dira plus tard, mon Père agit, j'agis, nous allons le voir. Ce qui est important, c'est que dès le départ, pour tous ceux qui sont un peu dans la confusion, c'est que vous sachiez que depuis Adam jusqu'à Moïse, il n'y a pas eu la pratique du sabbat. Et la pratique du sabbat a commencé lorsque Dieu a dit à Israël, je te le donne, un signe à toi entre toutes les nations. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'il faut bien comprendre, c'est que, aux yeux de Dieu, il y a, nous avons entendu tout à l'heure, Christian a introduit la Sainte Cène avec cela, nous avons affaire avec une alliance nouvelle. Lorsque le Seigneur Jésus a été établi médiateur d'une alliance nouvelle, la loi était, dira 2 Corinthiens 3, un ministère de la mort, entraînant la mort, mais que par la résurrection du Christ, nous entrons dans un nouveau ministère, dans une nouvelle sacrificature, la sacrificature de l'Esprit, la sacrificature de la grâce. Christ, nous dit les Écritures, a accompli la loi et À partir de ce moment-là, l'Épître aux Romains nous dira « Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient ». Je voudrais encore dire ceci, nous sommes affranchis, dit Romains 7, verset 1 à 4, de la loi pour être à Christ. Ça veut dire tout simplement que la loi ayant été donnée par Dieu ne pouvait pas mourir, alors Dieu nous a fait mourir en Christ à l'autorité de cette loi pour que cette loi n'ait plus aucun pouvoir sur nous. Nous sommes morts à la loi et nous sommes vivants par la nouvelle loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Je dis ça encore en introduction. Mais vous avez déjà pas mal d'images dans l'Ancienne Alliance qui vous montrent cette substitution de la vie par rapport à la mort ou la mort qui est suivie par la vie. Prenez déjà Isaac qui est offert par Abraham, Abraham le père des croyants, Abraham qui fut justifié à cause de sa foi et non pas à cause de ses œuvres, Abraham qui offrit Isaac et vous savez que Isaac passa comme au travers d'une résurrection. Vous avez là l'image de la mort, si le grain de blé meurt, alors il porte des fruits. L'image de toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Nous allons également l'approcher tout à l'heure. Vous avez le récit de la verge d'Aaron. Lorsqu'il y a eu contestation dans le peuple hébreu pour savoir qui devait être le souverain sacrificateur, vous savez qu'on a pris une verge de chaque tribu d'Israël et on a mis aussi la verge d'Aaron. Et à ce moment-là, le lendemain, on l'a laissé toute la nuit comme une image de la mort, toute la nuit ces verges sèchent dans le lieu saint, dans l'Arche de l'Alliance. Et le lendemain, la verge d'Aaron avait fleuri. De ténèbres est sorti des fleurs de lumière. Et il y a eu là le témoignage également de la vie qui devait sortir de la mort. Mais rappelez-vous également que Jésus a dû passer par la mort. Toujours, on retrouve toujours la mort dans la vie qui précède la vie. Et Jésus a dû connaître Gethsémané, il a dû connaître le ministère de la mort, il a dû mourir, renoncer à lui-même pour qu'il puisse goûter à la plénitude de la vie de résurrection. C'est important parce que, si vous voulez, nous avons tendance, les uns et les autres, à toujours raisonner avec notre autre vieille manière de faire ou de penser. C'est-à-dire, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal? Est-ce que ça c'est juste, est-ce que ça c'est pas juste? Alors que Dieu veut nous introduire dans une toute autre vision des choses, dans une toute autre conception des choses. Je vais m'expliquer. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé toutes sortes d'arbres fruitiers, ou toutes sortes d'arbres. Et il y avait aussi là-dedans l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Bon, Adam et Ève séduisant Adam, ou vice-versa, ou le serpent séduisant les deux, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont donc pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de ce moment-là, ils ont su ce qui était bien et ils ont su ce qui était mal, mais ils n'ont pas pu affronter le mal qu'ils venaient de découvrir et ils ont été vaincus par le mal. Et à partir de ce moment-là, toute leur personnalité a été faussée. Leur intelligence a été faussée, leurs sentiments ont été faussés, leur corps a été faussé, puisqu'à partir de ce moment-là, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort physique, comme conséquence de la mort spirituelle. À partir de ce moment-là, leur intelligence a été obscurcie, plongée dans les ténèbres. Et nous sommes le résultat de tout cela. Et la même chose se trouve dans nos vies, et la même chose se trouve dans notre existence. Ce qui veut dire, simplement, ce que je veux en arriver là, c'est que nous avons gardé malheureusement ce venin. Chaque fois que nous voulons comprendre les choses de Dieu, nous raisonnons par rapport à ce qui est bien, par rapport à ce qui est mal, sans nous rendre compte que notre intelligence est parfois incapable de voir vraiment ce qui est bien ou de voir vraiment ce qui est mal. Et parfois, ce que nous appelons bien est mal aux yeux de Dieu, et ce que nous appelons mal est parfois bien aux yeux de Dieu. Alors, il y a à revenir de nouveau sur l'arbre de vie. C'est-à-dire, au lieu de vivre d'après notre raisonnement, c'est bien, c'est juste, c'est pas juste, nous devons raisonner, nous devons vivre d'après la vie que nous avons en nous, la loi de l'esprit de vie qui est en nous. Nous ne construisons pas notre vie sur une moralité chrétienne ni sur une intelligence intellectuelle des vérités bibliques. Nous construisons notre vie sur la vie du Christ en nous. Et c'est seulement dans la mesure où cette vie se développe que nous serons dans la vérité. Ce matin, frères et sœurs, si vous pensez être dans la vérité parce que vous croyez juste, vous êtes dans l'erreur. Mais si ce matin vous êtes rempli de la vie du Christ, vous êtes dans la vérité parce que cette vie est vérité. Je suis la vérité, a dit Jésus. Comprenons-nous donc bien que la marche avec Dieu n'est plus basée sur la connaissance du bien ou du mal, mais notre marche et Dieu est basée sur le Christ vivant, sur l'arbre de vie, sur le prince de la vie, et c'est dans la mesure où nous nous remplissons, nous nous laissons remplir et nous laissons développer la vie du Christ, que alors nous portons le fruit où nous sommes dans la plénitude de la divinité. L'apôtre Paul, ou l'épître aux Hébreux, nous dit « Ainsi, il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. » Et Colossiens 2, verset 16, nous dit que personne ne vous juge au sujet d'une nouvelle lune, des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir. Galates nous rappelle que Christ est la fin de la loi. Ceci, je le dis encore, est qu'une petite parenthèse. Mais je pourrais encore rajouter que Jésus se sentait tout à fait libre du sabbat. Il le dira dans Matthieu 12, 8, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et les apôtres profitaient les jours de sabbat pour évangéliser, pour aller dans les synagogues où ils avaient liberté de parole. Jésus guérissait les malades le jour du sabbat. Et les Juifs lui ont dit, mais comment ça se fait que tu guérisses le jour du sabbat? Il dit, mon Père agit. Donc, si le chrétien était soumis à la notion du sabbat jour du repos, ça ne pouvait plus faire. Mais le Père agissait. Nous allons aller maintenant encore un peu plus loin. Quand le livre de la Genèse nous dit que Dieu dit qu'il se reposa le septième jour, ça ne veut pas dire que nous avons affaire à un Père passif. Ça ne veut pas dire que nous avons affaire à un Dieu inactif. Dieu agit encore. Le monde subsiste par la parole de Dieu. Jésus agissait, Jésus agit, parce qu'il voyait le Père agir. Et Dieu agissait le jour du sabbat. Dieu agit tout le temps. Mais seulement Dieu s'est reposé du travail qu'il a fait. Et c'est là que je voudrais maintenant vous faire pénétrer dans le sens de la nouvelle alliance. Il y a un sabbat pour le peuple de Dieu, dit l'Épître aux Hébreux. Il y a un sabbat et la Bible nous efforce d'entrer dans ce repos de sabbat. C'est quoi le repos du sabbat? Eh bien, c'est la pleine conviction que nos œuvres charnelles, nos œuvres naturelles, tout ce que nous voulions faire par notre volonté, avec notre bonne volonté, j'ose le dire, tout ce que nous voulons faire selon notre intelligence pour Dieu, ces œuvres de la chair que nous croyons être bonnes, ces œuvres-là, il faut que maintenant elles s'arrêtent. Nous nous reposons de ces œuvres anciennes. C'est fini pour nous. C'est fini, nous entrons maintenant dans le repos de Dieu, dans le repos où la nouvelle alliance va maintenant agir, jour après jour, cette alliance de l'Esprit, où nous ne serons plus là pour faire quelque chose pour Dieu, mais où nous laisserons Dieu agir en nous pour faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous et qu'il va faire au travers de chacun d'entre nous. Je voudrais rappeler ce matin qu'il y a une différence entre l'ancienne alliance où il fallait obéir à Dieu pour que Dieu nous bénisse et la nouvelle alliance où il est tout simplement question que c'est Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire, que c'est le Christ en nous qui fait les œuvres. Nous faisons les œuvres de la foi, nous ne faisons pas les œuvres pour mériter la bénédiction de Dieu. Je vois que vous me regardez un petit peu avec des yeux ouverts, j'essaye d'être devenir de plus en plus clair. Ce que je veux dire maintenant par là, c'est que pour le juif, le sabbat subsiste aussi longtemps qu'il est juif. Lorsqu'il se convertit à Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, mais tous sont devenus un en Jésus-Christ notre Seigneur, qui a brisé toutes les barrières. Aussi longtemps que quelqu'un ne se convertit pas et qu'il est juif, à ce moment-là, il faut qu'il respecte le sabbat. Mais, comme le dit la Bible, s'il désobéit à un seul commandement de la loi, c'est comme s'il avait désobéi à tous les commandements. Si vous courez après le train qui part, s'il vous suffit d'un mètre pour le rattraper, mais que ce mètre, vous n'arrivez pas à le rattraper, tout mètre que c'est, un tout petit mètre, vous ratez le train. Si vous obéissez à toute la loi sauf une, eh bien, il peut, même si c'est un seul commandement, vous ratez. L'apôtre Paul est clair, si nous voulons obéir à la loi, nous devons obéir à toute la loi. Si nous nous prévalons devant Dieu de la loi, nous devons obéir à toute la loi. Or, pas un seul, ni juif, ni grec, ni païen, personne n'a jamais réussi à obéir à la loi. Christ est venu pour accomplir cette loi. Où c'est que je veux en arriver? Pour le juif, le sabbat subsiste, mais pour le chrétien, il n'a jamais eu d'autorité. Je répète, pour le juif, le sabbat subsiste, pour le chrétien, il n'a jamais eu d'autorité. Vous connaissez cette lettre que les apôtres d'Antioche, que le concile d'Antioche avait écrit pour Paul, pour les églises que Paul avait créées, où il est écrit dans Actes 15, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, de s'abstenir du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité et de l'idolâtrie, choses contre lesquelles vous feriez bien de vous tenir en garde. » Et lorsqu'on vient maintenant nous demander de respecter le sabbat, on n'a pas demandé aux premiers chrétiens. Et c'est là que je veux dire la fragilité de nos chrétiens qui, dès qu'ils entendent une nouvelle doctrine, ils y plongent. Parce qu'on a toujours envie de faire quelque chose pour Dieu, alors que notre justice aux yeux de Dieu est comme un vêtement souillé. Je voudrais rappeler ce matin que les seules choses indispensables aux yeux de Dieu, c'est de laisser l'arbre de vie porter pleinement son fruit en nous. C'est de laisser la vie du Saint-Esprit nous conduire. J'insiste énormément là-dessus, parce que vous allez voir que le dimanche est le produit de l'Esprit au travers du cœur, régénéré. Donc, pas question pour de sabbat, même en ce qui concerne les ordonnances que Dieu avait données au travers des apôtres lors de la rencontre d'Antioche, lorsqu'on discutait de savoir ce qu'il fallait imposer ou s'il fallait imposer la circoncision aux chrétiens du pays des gentils. Le dimanche, donc, appartient à la grâce. Le dimanche, je le rappelle encore, n'est pas, aux yeux de Dieu, le jour du repos. Le dimanche est le jour de la résurrection. Encore quelques points. C'est le dimanche, c'est un lendemain de sabbat que l'arche de Noé, qui préfigurait une nouvelle humanité, c'est un lendemain de sabbat que l'arche de Noé s'est posée sur le mont Ararat. C'est un lendemain, si vous voulez, c'est également, par exemple, en ce qui concerne la gerbe des prémices de la moisson. Vous savez que dans le Lévitique, au chapitre 23, verset 9, eh bien, on agitait les prémices de la moisson devant, on prenait les prémices de la moisson et on les agitait devant le Seigneur. Cette fête de la moisson, cette fête des prémices, qui préfigurait les prémices par excellence, qui était la résurrection du Christ, cette fête des prémices a été offerte un lendemain de sabbat. Pas le sabbat, un lendemain de sabbat, c'est-à-dire un dimanche. C'est-à-dire le premier jour de la semaine. Arche de Noé, premier jour de la semaine. Fête de la prémisse, premier jour de la semaine. Prenez maintenant, après cette fête des prémices, prenez la semaine, 50 jours après. Prenez par exemple la Pâque, un lendemain de sabbat. Prenez également 50 jours après la fête, ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte, où des pains étaient agités devant deux pains, étaient agités du pain avec du levain. Était agité, ce pain représentait les juifs et les païens, était agité devant l'Éternel. C'était également, cette fête de la Pentecôte était également un premier dimanche de la semaine, un lendemain de sabbat. Et je voudrais vous rappeler que, entre temps donc, la nouvelle alliance ou la nouvelle humanité en Christ vient, la résurrection du Christ, je le rappelle, a lieu un lendemain de sabbat, un dimanche, et la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, le jour où les disciples sont rassemblés dans la chambre haute, ne vient pas un jour de sabbat, vient le dimanche, le premier jour de la semaine, c'est le jour de l'Esprit. Cela, nous devons vraiment le réaliser. Nous devons vraiment aussi, j'allais dire, le comprendre, mais dans notre cœur déjà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit la résurrection, que ce soit la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, nous sommes là dans une toute autre dimension, nous sommes là dans une toute autre conception que la conception de l'obéissance à la loi juive, nous sommes dans une nouvelle alliance, nous sommes dans une nouvelle marche chrétienne, nous ne sommes plus sous la lettre de la loi, parce que Christ est la fin de la loi, mais nous entrons dans la dimension de la résurrection, dans la dimension de l'Esprit, nous entrons dans la dimension de la marche selon l'Esprit, et afin de ne plus accomplir les œuvres de la chair. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un repos de sabbat. Ce repos de sabbat n'est plus à faire pour le chrétien un samedi, un dimanche, un lundi, un mardi. Le repos du sabbat est une attitude, un repos du cœur que nous devons, dans lequel nous devons parvenir 24 heures sur 24. Que je veille, que je dorme, je suis au Seigneur. C'est ça le repos de sabbat qui manque malheureusement tellement aux chrétiens. Nous devons être dans les difficultés comme dans les luttes, nous devons avoir au fond de nous-mêmes un repos qui bannit toute crainte. Un repos qui est la présence de Dieu, qui est le Dieu du repos. Une paix qui n'est pas le produit de la paix humaine, mais Jésus a dit « Je vous donne ma paix », cette paix que le monde ne connaît pas, que le monde ne peut pas donner. C'est cela le sabbat, nous avons notre paix avec Dieu par le Christ. Et nous nous efforçons d'entrer dans ce repos face à toutes les tentatives, face à toutes les séductions, face à toutes les pressions, face à toutes les luttes que nous pouvons rencontrer, aucune de ces choses nous ne devons permettre à aucune de ces choses de nous priver de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui veut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce matin, avez-vous la paix? Le dimanche, premier jour de la semaine, est donc le jour de l'Esprit, mais c'est aussi le jour du rassemblement. Rappelez-vous déjà le psaume 133, qui dit « Il est bon pour des frères de demeurer ensemble ». Le livre des Actes et les récits historiques nous montrent que les chrétiens se rassemblaient le jour du Seigneur, pour partager le pain ensemble, pour partager chaque fois qu'il y avait un culte, on participait à la Sainte Cène. Pourquoi? Parce que la Sainte Cène était le témoignage de la mort et de la résurrection du Christ. c'était non seulement le symbole de la mort et de la résurrection, c'était plus que le symbole, c'était la communion vivante par le Saint-Esprit au corps et au sang du Christ. Frères et sœurs, j'aimerais rappeler que le dimanche, lorsque le dimanche nous prenons le pain et le vin, nous ne faisons pas simplement nous rappeler que Jésus est mort pour nous. Nous ne faisons pas simplement nous rappeler qu'un jour Jésus est ressuscité un dimanche. C'est plus que cela. C'est bien sûr un souvenir d'une réalité éternelle, mais c'est aussi pour chaque croyant qui ainsi participe au pain et au vin, c'est l'occasion pour lui, par sa foi et par l'action du Saint-Esprit, d'entrer spirituellement en communion avec le corps et le sang du Seigneur. En communion avec le corps, ce corps qui a été brisé pour que par ses meurtrissures, vous et moi nous puissions être guéris. Ce sang qui a coulé pour que par son sang, vos vies et mes vies soient lavées et purifiées de tout péché. Ce corps et ce sang qui ont coulé pour que par sa mort, le sang, par son effusion, le sang de Jésus, nous lave et nous purifie de tout péché, qui nous délivre également de notre vaine manière de vivre, qui nous délivre également de la puissance du diable, qui nous délivre également de notre vie passée. Ce sang de Jésus qui a une puissance de purification éternelle et qui purifiera nos cœurs et nos consciences des œuvres mortes. Lorsque je prends la Sainte Cène, mes frères et sœurs, c'est une occasion pour moi de me nourrir du corps et du sang de Jésus. C'est une occasion pour moi d'être vivifié, d'être guéri, d'être renouvelé, d'être fortifié à tous égards. C'est pour moi l'occasion de toucher le Christ vivant dans sa gloire. C'est pour moi l'occasion de monter au ciel et d'être touché par la puissance de résurrection du Christ. Pour mon corps, pour mon être intérieur, pour mon âme. Parce que la chair, le sang, la vie de toute chair est dans son sang. Et lorsque j'entre en communion avec le sang du Christ, j'entre en communion avec l'âme et la vie du Christ ressuscité. Le dimanche, c'est le jour de l'esprit. C'est le jour de la joie. C'est le jour de la paix. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Hébreux 10, 25 nous dit, n'abandonnez pas vos saintes assemblées, rassemblements. Ça ne veut pas dire n'abandonnez pas votre assemblée. Ça veut dire n'abandonnez pas votre rassemblement. Lorsque le peuple de Dieu se rencontre, n'abandonnez pas ces rassemblements auxquels Dieu donne un si grand prix, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. J'aimerais le rappeler ce matin. Il y a des promesses pour notre vie individuelle en tant que chrétien, et il y a des promesses pour notre vie communautaire. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et il est bon aussi, lorsque nous sommes ensemble, de nous compléter les uns les autres par les différents charismes que nous avons reçus. Il est bon d'être édifié par les frères, parce que c'est seulement quand le corps est rassemblé que le corps peut agir pleinement. Le corps, c'est la dimension du corps, est voulue de Dieu. Un membre qui reste toujours tout seul, il ne fera jamais rien de bon. Il fera peut-être quelque chose de bon tant que c'est sa fonction, mais perdu en dehors du corps, il sèche. Et c'est pour cette raison que, si vous voulez, le dimanche, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le jour de la résurrection du Christ et de son corps, parce que nous participons à la vie de ce corps de ressuscité, puisque nous sommes ressuscités avec lui et puisque nous sommes des membres de son corps, c'est le jour du rassemblement en Christ où Dieu se plaît alors au milieu de la louange de son peuple. Nous devons le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Je ne vais pas être long. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le dimanche pour bien des gens? Est-ce que pour beaucoup c'est ouf, vivement dimanche qu'on... La Bible vous dit, c'est pas ça du tout. Si pour vous le dimanche c'est ça, il y a quelque chose à réformer dans votre façon de voir. Le dimanche n'est pas la fin de la semaine. Le dimanche c'est le premier jour de la semaine, le jour du Maître, le jour du Seigneur, le jour de l'Esprit, le jour où là, devant Dieu, dans la communion fraternelle, et dans mon intimité avec Dieu, c'est un jour de fête, c'est un jour d'adoration, c'est un jour où je suis sous l'onction de l'Esprit particulièrement, où je suis là devant Dieu, où je me ressource, où je me fortifie, où en un mot, je marche dans la vie plénitude de l'Esprit communautairement parlant. C'est le jour du culte, c'est le jour de la communion fraternelle, c'est le jour de la complémentarité mutuelle, c'est peut-être le jour du pardon aussi parce que je participe au même pain que les autres, c'est le jour de la réconciliation. C'est le jour peut-être de la guérison, de la restauration. C'est aussi le jour du témoignage quand il est là. C'est le jour du Seigneur. Et c'est ce jour-là qui est pour moi le premier jour de la semaine. C'est le jour où je me nourris. C'est le jour où je me fortifie. C'est le jour où je me prépare pour les jours qui viennent. Je ne me repose pas le dimanche tel qu'on le conçoit par rapport au sabbat. Mais le jour du Seigneur, je me nourris de la communion avec le Seigneur. Je me nourris de la communion avec mes frères et sœurs. Je me nourris de ma marche devant Dieu dans l'onction du Saint-Esprit, parce que lorsque nous nous rassemblons, Dieu nous donne rendez-vous, c'est la communion des saints, c'est la communion avec les anges, c'est la communion avec la nuée des anges, c'est la communion avec l'onction du Saint-Esprit sur nous tous, pas seulement individuellement, mais sur nous tous. C'est le baptême communautaire du Saint-Esprit, c'est l'onction communautaire, c'est la nuée sur le peuple. Et le faible alors peut bénéficier de la force des forts. Et le fort peut alors donner la force aux faibles. L'onction qui est sur lui va se répandre sur les autres et nous sommes tous alors arrosés. C'est le jour de l'Esprit. Or, qu'est-ce qu'on voit souvent? Souvent, eh bien, on voit que pour ceux que le dimanche est devenu une tradition ou un jour de repos, ils ont perdu cette vision de la solidité, de la flamme de l'onction du Saint-Esprit pour le jour du dimanche. Alors, bien sûr, on va peut-être se promener, je ne sais pas, on va faire toutes sortes de choses, je ne suis pas contre les promenades, mais je crois qu'il ne faut pas les faire hors de temps et quand cela n'est pas l'heure de Dieu. Donc, il y a, vous assistez, le dimanche est souvent une rupture de la famille. Alors que la vision de Dieu, c'est que toute la famille, père, mère, femme, enfant, mari, enfant, se retrouve devant Dieu. Alors, se retrouve avec Dieu, se retrouve dans ce jour du Seigneur, dans ce jour de la joie, dans cette fête de la résurrection, dans cette fête de la vie. On voit les uns ici, on voit les autres là, c'est la destruction familiale. Mais ce qui est tragique, ce n'est pas la séparation qui est tragique seulement. Ce qui est tragique, c'est que la nourriture spirituelle ne vient plus. Et il y a érosion, et il y a fatigue, il y a destruction, et il y a manque de spiritualité de plus en plus forte. Prenez un peu, beaucoup de chrétiens laissent le sens spirituel du jour du Seigneur. Ils partent, se dispersent, travaillent même si ce n'est pas nécessaire, ou quand ce n'est pas nécessaire, ou parce qu'ils veulent gagner plus d'argent. Nous avons vu avec la réunion des frères que nous ne sommes pas assujettis tout particulièrement à une interdiction de ne pas travailler le dimanche. Ce qui compte, c'est la raison pour laquelle tu travailles le dimanche. Est-ce que dans ton service hospitalier, quelque part tu es obligé parce que ça fait partie de ton tour, tu ne l'as pas voulu, mais si tu veux gagner plus en travaillant le dimanche, tu rates quelque chose. Dieu ne te reprochera pas de ne pas respecter le dimanche, Dieu te reprochera ou Dieu te sera triste de te voir te priver de l'onction de la communion fraternelle. Qu'on ne vous juge pas pour une question de jour, mais ne vous privez pas de la bénédiction de Dieu que Dieu tout particulièrement donne le jour de la résurrection, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la communion, le jour où le Seigneur parle au milieu de son peuple, où il guérit, où il renouvelle, où il fortifie, où il donne la vie à ceux qui en ont besoin. Parce que justement, on n'a pas compris l'importance et la puissance de cette journée de la résurrection, où au lieu de passer peut-être bien du temps, dans des loisirs qui finalement ne nourrissent pas, si nous cherchons la face de Dieu, si nous sommes à l'écoute de Dieu, à l'écoute des autres, si ce jour est vraiment le jour du Seigneur dans nos vies et les uns envers les autres, mes frères et sœurs, il va toujours se passer quelque chose au milieu de cette communion fraternelle parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous savez, on a parlé du sabbat pour les Juifs. Vous savez ce qui a tenu l'ossature juive au travers des persécutions? Les Juifs ont connu toutes sortes de persécutions, même par les chrétiens. Hein? Ils en ont, on peut le dire, bavé. Mais qu'est-ce qui les a tenus? On a dit que le sabbat, finalement, n'était pas... que le sabbat a gardé le peuple juif dans son entité. C'est parce qu'ils avaient la notion du sabbat. Pour le juif, croyant, le sabbat est quelque chose de très fort. Le vendredi soir, la mère allume les bougies, nettoie sa maison de tout levain. Elle fait la prière introductive. C'est les bougies qui sont là et ensuite c'est un repas de fête le soir, le soir du sabbat, c'est un repas de fête, une joie qui est là. Et les enfants tout petits sont marqués par cela, tout petits sont marqués. Maintenant, le dimanche, c'est égal. On va au ski, on va à ceci, on va à cela. Que voient nos enfants? De quoi sont imprégnés nos enfants? De quoi sont imprégnés les enfants? De quelle vision gardent-ils du dimanche? Et je voudrais dire quelque chose de très important, même si les enfants ne comprennent pas tout de suite, et nous savons que nous avons les élevés à la foi et à la connaissance de Jésus-Christ, eux-mêmes doivent prendre leur décision un jour. Il faut que les enfants bercent dans une atmosphère spirituelle très forte. Et la bénédiction des parents vers les enfants, c'est de les baigner dans cette atmosphère spirituelle. C'est de les baigner dans l'exemple que les parents donnent. Et on n'a jamais vu des enfants mal finir lorsque les parents vivaient cette atmosphère spirituelle. Frères et sœurs, j'aimerais rappeler ce matin que l'influence de l'Église, l'impact de l'Église est tué dans le monde, l'impact de l'Église est tué dans les familles, l'impact de l'Église est souvent tué dans la vie, tout simplement parce qu'on ne fait pas assez attention à l'importance de ce jour de l'Esprit, de ce jour du Seigneur, de ce jour de la Sainte Cène, mais aussi de ce jour de la bénédiction de Dieu. Et puis, vous savez, si on néglige, le dimanche tue également la vie spirituelle de ceux qui le négligent, de celles qui le négligent. On rend compte que quelqu'un qui commence à négliger le dimanche, quelqu'un qui ne réalise plus la valeur du dimanche, il s'étiole, il ne s'en rend pas compte, il s'étiole. Il s'étiole, il n'y a plus cette abondance, il n'y a plus ce secours des autres au moment où il en a besoin. Il est progressivement livré à lui-même et dans ses faiblesses, il va craquer. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin les uns des autres. Et justement, ce rassemblement du peuple de Dieu, c'est le secours que Dieu nous donne pour notre isolement. On ne travaille plus comme on l'avait avant. On n'a plus la même onction. On n'a plus tellement le premier amour. Le dimanche appartient à la grâce. L'heure est avancée, je ne vais pas continuer. J'ai promis de ne pas être long. Je vais simplement dire ceci pour terminer. Ce matin, frères et sœurs, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous montre l'importance qu'il y a, non pas du sabbat, le jour du repos, on va se reposer, mais que Dieu nous montre le rendez-vous qu'il nous donne, le jour du Seigneur. Que Dieu nous montre le rendez-vous qu'il nous donne ce matin, qu'il nous a donné ce matin, qu'il nous donne pour cette journée. Un rendez-vous communautaire, mais aussi un rendez-vous individuel entre moi et lui. Un moment de prière, un moment d'isolement, un moment de méditation dans la parole de Dieu. Un moment où je suis là, peut-être dans le service pour les autres. Il y a tout un rendez-vous que Dieu nous offre le dimanche. Il y en a qui ne peuvent pas, ils sont malheureux. Je me rappelle quand je travaillais dans l'enseignement, j'étais sur un général, il fallait me faire un service de dimanche. J'en étais malheureux. J'ai réalisé que le peuple de Dieu se rassemblait, mais il fallait que je reste. Je priais, Seigneur, libère-moi de cette servitude. Je savais que je n'étais pas condamné parce que je ne venais pas le dimanche. Ce n'était pas ma faute. Mais je sais que quand plus tard j'étais dégagé de ce service et que je pouvais me retrouver chaque dimanche dans la maison du Seigneur, vous savez, franchement, ça valait la peine. Mes amis, j'aimerais rappeler ce matin qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. J'aimerais rappeler ce matin que lorsque nous sommes ensemble, nous nous aidons les uns les autres. Nous nous portons les uns les autres. La prière de l'un, la louange de l'autre, l'intercession du troisième, la parole prophétique du quatrième, l'exhortation du cinquième, la poignée de main du sixième, le repas peut-être, ou celui que j'invite chez moi ou qui m'invite chez lui. Tout cet ensemble-là, le service, le témoignage en commun, tout cela me fait du bien. Cela me renouvelle, cela me fortifie, cela me donne d'aller de l'avant. C'est le jour de l'Esprit. C'est le jour du Seigneur. Laissez tomber le sabbat, ça n'a plus aucune importance. Pour nous, il n'a jamais eu de valeur. Nous sommes les enfants du dimanche, les enfants du Seigneur. Et que nous puissions ainsi vivre dans la joie, vivre dans la paix. Amen. Alors, si on vient vous trouver, vous ne respectez pas le sabbat, dites, vous n'en avez pas besoin. Vous avez largement assez avec le dimanche. Et que Dieu ainsi nous garde dans sa paix et dans sa joie. Seigneur, tu nous raccompagnes maintenant. Tu nous gardes tout à l'heure dans ce moment de jeûne et de prière. Et tu nous donnes d'aller de l'avant dans la joie et dans la paix. Seigneur, que nous puissions connaître notre privilège. Que nous puissions connaître notre joie d'enfant de Dieu. Que nous puissions vivre jour après jour c'est cette onction du Saint-Esprit. Et aller de l'avant, Seigneur, avec puissance, avec gloire. C'est vrai, Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins. Nous te remercions de ce rassemblement que tu permets le jour du Seigneur. Ce rassemblement où ton Saint-Esprit nous a donné rendez-vous. Où ton Saint-Esprit habitant chacun de nous, tu nous donnes de vivre ta gloire. Tu nous donnes de vivre ton règne. Tu nous donnes de vivre la pleine manifestation de ton corps. Ô Seigneur, que ce matin, chacun et chacune soit renouvelé dans sa vision, soit renouvelé dans son désir de se retrouver les uns avec les autres dans la maison du Seigneur. Et nous sommes la maison du Seigneur. Oh, donne-nous de construire cet édifice vivant, cet édifice spirituel dont nous sommes chacun pour notre part des pierres vivantes. Donne-nous d'être fort en toi. Donne-nous d'être fort pour enrichir les autres. Donne-nous d'être fort pour aider les autres. Et donne-nous d'être fort pour t'adorer en esprit et en vérité tous les jours de notre vie. Seigneur, si nous avons un sabbat dans nos cœurs, nous te demandons de nous aider à le garder jour après jour, ce repos de sabbat qu'aucune difficulté ni le malin ne puisse nous l'ôter. Mais Seigneur, donne-nous aussi de réaliser le rendez-vous que tu nous donnes dans notre communion fraternelle, parce que c'est là que tu envoies la bénédiction, parce que c'est là que tu envoies la vie et la vie pour l'éternité. Oh, tu nous bénis, Seigneur. Tu nous bénis durant toute cette journée. Tu nous fais du bien. Tu nous portes en avant, mon Dieu. Oh, tu nous abreuves du torrent de tes délices. C'est vrai, Seigneur, tu nous as donné ton esprit. Seigneur, nous sommes forts par ton esprit. Nous ne sommes pas forts parce que nous connaissons le bien ou le mal, mais nous sommes forts parce que ta vie est en nous, Seigneur. Cette vie abondante, ces fleuves d'eau de la vie que tu nous donnes, ces fleuves qui jaillissent de nos cœurs, ces fleuves qui jaillissent de nos vies, ces fleuves qui nous permettent de vivre le jour de la résurrection avec, dans la communion fraternelle, mais qui nous permettent aussi de vivre chaque jour notre vie et notre vocation d'enfant de Dieu. Ô Père, que ton Esprit Saint nous garde dans ces choses et nous donne d'aller de l'avant dans la joie et dans la paix et dans l'autorité du nom de Jésus. Amen.
Radio Certitude.
Nous venons d'écouter un partage du pasteur Pierre Truchel sur le thème de dimanche et sabbat.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.